Classique 21, you rock.
Radio Caroline. Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
Salut, heureux de vous savoir à mes côtés à bord du cargo de Radio Caroline pour cette nouvelle traversée qui petit à petit se rapproche de la fin de l'année 2025. Pour se rapprocher du cap 2026. Nous n'y sommes pas encore. Deux autres étapes que j'espère pour vous passionnantes sur cette même fréquence et à cette même heure nous y emmèneront. Mais j'avais envie de profiter de ce moment charnière en vue pour en évoquer un autre qui, en 1945-1946, a amorcé une parenthèse de trois décennies, enchantée ou pas, que l'on a tendance à associer au progrès, à des libérations diverses, voire à certaines révolutions, les 30 glorieuses. Une période que la crise pétrolière et le taux de chômage galopant enterreront au milieu des années 70, sur laquelle on fantasme parfois, à tort bien souvent, et qui évoque deux livres dont l'un vient tout juste de sortir. Livre qui n'élude pas, bien sûr, les avancées et accélérations que ces 30 glorieuses ont permises, ce compris quelques nouveautés anecdotiques. Après quoi nous en sortirons de ces 30 glorieuses pour évoquer une autre libération qui, sur les ondes, n'aura lieu qu'au début des années 80, illustrée par un beau livre, entre guillemets, livre éclairant et richement illustré, dédié donc à l'histoire de Fréquence Gay, devenue Radio FG en France. Alors tenez-vous bien au garde-fou, en blouson noir ou bikini, vous ne regretterez pas le voyage. Pour commencer ce périple dans les 30 glorieuses, plongeons-nous tout d'abord dans la révolution de la consommation vécue au cours de cette période. Chez nous, nous sommes en 1963.
Cette grande avenue, bordée d'oriflammes et de drapeaux, mène au vaste palais des expositions de Charleroi, où se tient le 10e Salon international des arts ménagers. Dans les halls, couvrant une superficie de quelques 40 000 mètres carrés, sont réunis 627 exposants venant de tous les pays. Parmi les kilomètres d'allées, il y a 11 kilomètres exactement, les articles ménagers s'alignent dans les stands les plus divers. Tout est réuni là pour contenter la ménagère la plus exigeante. On connaît certes déjà les mixeurs, mais on s'arrête quand même pour écouter le vendeur un peu baratineur et pour regarder faire très rapidement du velouté au petit pois ou une superbe mayonnaise qui colle bien au fond du récipient. Et il est tout aussi amusant de voir débiter en petits morceaux les légumes et le fromage, ou de voir la viande soudain hachée.
Quelques années plus tard, la famille Dupont, une famille de 4 personnes, 2 enfants, voit sa vie hautement facilitée par ces supermarchés qui peu à peu se multiplient, annonçant d'autres mutations à venir.
Pour gagner du temps, les Dupont font leur marché ensemble. Parce que ça les arrange. Parce qu'il faut s'adapter à un nouveau rythme en recréant un art de vivre simplifié au maximum. Et s'ils ont eu du mal à se faire au cadre un peu froid, ils apprécient le fait de trouver un parking, de pouvoir acheter sous un même toit des articles de crèmerie, boucherie, épicerie, droguerie et bien d'autres. Ils peuvent en une soirée prévoir les provisions pour une semaine, ne réservant que les achats de dernière minute aux commerçants du quartier. Ils se servent eux-mêmes et n'oublient rien. L'agencement des rayons étant le meilleur des pense-bêtes. Ils sont heureux de profiter des articles de réclame, des prix parfois avantageux, du chariot grâce auquel ils ne sont plus transformés en bêtes de somme. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que bientôt, ces complexes deviendront de véritables centres de loisirs, autour desquels les petits magasins dont personne ne souhaite la mort se grouperont comme dans un village. Les cinémas, la piscine et même le motel feront partie du décor.
Les 30 glorieuses, comme le rappelle l'historien et politologue Vincent Martigny dans son livre « Les temps nouveaux, en finir avec la nostalgie des 30 glorieuses », c'est bien sûr l'invention d'une modernité en un temps record, l'abondance matérielle, l'apparition des premiers supermarchés, on l'a vu, le début de la libération des femmes qui, depuis 1945, en France, ont le droit de vote et commencent à se réapproprier leur corps avec le droit à l'avortement. Ce sont des perspectives d'évolution professionnelle et salariale plus rapides. C'est un ruissellement du progrès social et économique sur l'ensemble des classes de la population. C'est une période dans laquelle beaucoup de gens se sont retrouvés, ont pu communiquer dans une culture de masse qui émergeait avec des références culturelles partagées. Dixit donc Vincent Martigny qui poursuit. Alors que, dans notre époque incertaine, la nostalgie de ces années de prospérité et d'insouciance s'invite partout, ne nous empêche-t-elle pas de faire face aux défis du présent lorsqu'elle se mue en récit politique? S'il y a une crise aujourd'hui, c'est une crise du futur. Et Vincent Martini, d'ajouter lors d'une interview radio.
Je pense que, y compris les gens les plus à droite de l'échiquier politique, ne supporteraient pas de passer 15 jours en 1955, quand ils verraient la société patriarcale, incroyablement écrasante pour les individus, groupale, où la liberté d'expression et où la capacité d'action individuelle était bien moindre qu'aujourd'hui, y compris pour dire des choses qui sont des choses très radicales dans le sens de l'extrême droite aujourd'hui. Une des raisons pour lesquelles nous vivons dans une nostalgie de cette période, c'est que nous avons surtout énormément d'images de cette période. Cette période a été la première à avoir créé une masse culture considérable, cette culture de masse, c'est-à-dire des films, mais aussi de la musique, évidemment, des documentaires. On a beaucoup d'images. Mais attention, parce que ces images, elles nous piègent. Encore une fois, nous pensons que tout le monde vivait comme dans Les Bronzés font du ski, film qui sort en 1979, qui fait un flop à sa sortie, moins d'un million de spectateurs, alors qu'aujourd'hui, lorsqu'il passe à la télévision, comme en 2006, il est vu par 12 millions de personnes. Les gens confondent ce qu'étaient Les Bronzés où Les Bronzés font du ski, c'est-à-dire une société insouciante, de classe moyenne, qui vit à la montagne, l'été au soleil, etc. On confond ces représentations idéalisées déjà à leur époque et la réalité. On pense que tout le monde vivait comme ça. Alors nous, on leur dit attention, parce que ces images, elles sont aussi parfois trompeuses. Et d'ailleurs, on le voit, y compris dans la façon dont Donald Trump, aujourd'hui aux États-Unis, essaye de, par exemple, interdire les pailles en plastique, il veut imposer les pailles en plastique. Pourquoi ? Parce que c'est un imaginaire, vous savez, du Coca-Cola, la pop culture, le plastique, etc. Ça paraît complètement ridicule, mais ça nous met dans un imaginaire qui est celui aussi qu'on voyait dans les films avec des jukebox des années 50, 60, 70, cette Amérique heureuse. Mais rappelons encore une fois que cette Amérique heureuse, elle n'est qu'une Amérique de films pour beaucoup de gens, et qu'en réalité, ce n'est pas du tout la réalité qu'ont vécu énormément d'Américains dans cette période, et encore une fois, je ne pense pas qu'ils soient très revenus en arrière.
On est paralysé par le fait que demain sera forcément catastrophique, dit-il encore. Cette obsession des 30 glorieuses nous conduit à prendre des choix qui nous dépossèdent d'un meilleur futur viable et responsable. Il faut apprendre à penser que notre période est aussi pleine de promesses et de satisfactions. Voilà qui, avouons-le, en ces temps anxiogènes, n'est pas totalement désagréable à entendre. On l'a compris, les 30 Glorieuses, ce fut du progrès, de l'évolution et quelques révolutions. Mais d'une part, impossible de revenir en arrière. Et surtout, si une telle téléportation était possible, nous risquerions d'être très désagréablement surpris. Ou, pour paraphraser le sous-titre d'un beau livre, d'un coffee table book, titré « Nos 30 Glorieuses », paru chez Albin Michel et signé Armel Leroy et Laurent Chollet, c'était peut-être mieux avant, mais ce n'était pas loin sans faux pour tout le monde. Rationnement jusqu'en 1949, pas d'eau courante pour 40% des logements français, encore moins d'eau chaude, toilettes sur le palier ou dans la cour, lavage du linge à la main, aliments conservés dans un garde-manger, forte pauvreté dans les années 50, guerre d'Indochine et d'Algérie, inflation hors de contrôle dans les années 1970. Et pour ce qui est des réelles améliorations des conditions de vie, il faudra attendre le milieu des années 1960. Pour illustrer la face réjouissante de cette période, le livre aborde, au fil des chapitres et en l'illustrant d'une foisonnante iconographie, le rêve américain, la fin des colonies, mobilettes et pétrolettes, la télévision, le spectacle à la maison, le second âge d'or de la bande dessinée, l'argent de poche, un goût d'autonomie, le règne des yéyés, sur les barricades de mai 68 ou encore sur les ondes avec les copains. Mais pour ce qui est de l'envers de la médaille, le film revient aussi sur le phénomène des blousons noirs. Pas tant pour stigmatiser ces derniers, mais pour rappeler la réalité du milieu dont ils sont issus. En 1945, écrivent les auteurs, loin des liesses de la libération, il n'est pas rare de voir des gamins dépenaillés errer dans les ruines des immeubles bombardés. Victimes de la guerre parmi les plus vulnérables, souvent orphelins ou issus de familles éclatées, ils ne trouvent un semblant de réconfort qu'en se regroupant en bande. Avant le conflit, la vie était déjà difficile pour leurs parents. Dans cette immédiate après-guerre, les épreuves paraissent désormais insurmontables. Pour ces enfants issus des milieux populaires, le chapardage et la débrouille quotidienne paraissent le seul moyen de survie. Au cours des années suivantes, ils restent les grands oubliés de la reprise économique. Ils vivent avec leur famille dans des logements insalubres, dorment à plusieurs dans des deux pièces sordides, parfois dans les baraquements des bidonvilles. Leur père retrouve peu à peu du travail dans des usines qui poussent tels des champignons vénéneux dans les banlieues des communes les plus importantes. Les mères s'occupent de leur marmaille et, dès qu'elles le peuvent, se font aussi embaucher comme ouvrières. Le relogement et la construction deviennent une des préoccupations principales du gouvernement. Les bidonvilles sont détruits et dans les périphéries des métropoles surgissent de terre des immeubles gigantesques surnommés pompeusement gratte-ciel. Les premières cités voient le jour, poursuivent encore nos auteurs. De nombreuses familles sont relogées dans ces HLM au loyer modéré. Pourtant, pour les jeunes, la réalité est bien différente de l'image véhiculée par les magazines de l'époque. On est loin de la famille heureuse posant dans sa cuisine moderne, souriant à l'objectif d'un photographe professionnel. Même quand ils bénéficient avec leurs parents d'un de ces logements pourvus de tout le confort actuel, les jeunes se retrouvent à l'étroit dans des appartements exigus, perdus dans une banlieue lointaine au milieu de terrains vagues et de chantiers inachevés. La vie quotidienne au sein de leur foyer n'a rien de palpitant. Elle tourne souvent au cauchemar. L'alcoolisme, la promiscuité, le manque d'argent, les disputes de leurs vieux les poussent à chercher à l'extérieur un semblant de vie sociale. Et quand ils n'ont rien de grave à reprocher à leurs parents, ceci représente pour eux le monde des adultes, celui des croulants à qui il faut échapper à tout prix. Leur bande continue à être leur seul soutien, leur repère, leur référence. Du moins, pour les garçons, car les filles obtiennent rarement le droit de sortir et certainement pas le soir. Regroupés dans les squares des villes ou autour du flipper de l'unique bar de leur banlieue, ces adolescents désœuvrés refont rarement le monde. L'engagement politique ne concerne qu'une minorité d'entre eux. Ils aiment chahuter, se bagarrer avec d'autres bandes, parler des filles, faire peur aux habitants de leur quartier. Mais surtout, ils s'ennuient en permanence.
Radio Caroline. Radio Caroline avec Olivier Monsens.
À côté des blousons noirs, nous rappelle Armelle Leroy et Laurent Chollet dans Nos 30 Glorieuses, c'était mieux avant, mais pas pour tout le monde, paru chez Albin Michel, il y a aussi les blousons dorés. Qualifiés de snob ou de dandy, dis-je, ces étudiants issus des classes privilégiées aiment se retrouver pour écouter du jazz et refaire le monde. Ils affichent leur argent, ou plutôt celui de leurs parents, et sont très fiers d'avoir droit à des sursis pour leur service militaire le temps de leurs études. Un privilège qui apparaît comme le comble de la provocation pour les jeunes des milieux populaires qui, eux, doivent quitter leur emploi quand ils sont appelés sous les drapeaux pendant 18 mois. Une situation qui s'aggrave encore au moment de la guerre d'Algérie avec un service qui passe à 30 mois. En 1958, les blousons dorés acquièrent le surnom de tricheurs, une référence directe au film de Marcel Carné, au titre éponyme, mettant en scène la vie d'une bande de jeunes parisiens privilégiés et qui rassemblera en France, dans les salles, près de 5 millions de spectateurs. En voici donc un extrait, quand un blouson noir s'invite chez les blousons dorés, où il retrouve une de ses ex qui a changé de camp. Tout cela précédé de la preuve de cet engouement pour ce long métrage.
Chaque jour, chaque soir, dans chaque ville, le public ratifiant l'opinion unanime de la presse va en foule applaudir les tricheurs.
Enfin, le film Les Tricheurs obtient devant un jury présidé par M. André Mauroy de l'Académie française le grand prix du cinéma français pour le meilleur film de l'année. Que sur 1000 spectateurs, un seul père, une seule mère découvre soudain que son fils échange son arme contre une jaguar, ou que sa fille étrangle son cœur pour ne plus l'entendre battre, alors les tricheurs auront été mieux qu'un vain et brillant tableau des J3 obstinés.
Ton meilleur copain serait dans la merde. Tu l'aiderais ?
Je l'enfoncerais.
Oh ! Pourquoi ?
Parce que j'aime personne, que vous vous valez tous.
Et puis j'en ai marre, c'est moi qui interroge.
Depuis 2 ans, combien de cartes es-tu envoyé?
Je serais incapable de les compter.
Pourquoi le fais-tu?
Parce que j'aime ça.
Et avec moi, c'était comment?
À quel point de vue?
Physique.
Parfait.
Mieux qu'avec Bob?
Techniquement, oui.
Tu as déjà été amoureuse?
Oui. Quand j'avais 10 ans.
Et depuis?
Jamais.
Pas un peu de Bob?
Tu me prends pour qui?
Tu étais toujours avec lui.
Son côté 16e m'amusait.
C'est tout?
Non. Il me servait pour la voiture. Et puis il avait de quoi payer des verres. C'est rare chez nous.
Il va se vexer, on ne le verra plus.
On se fera une raison.
Tu regrettes les choses que tu as faites?
Aucune.
Tu recommencerais tout?
Plus encore, si je pouvais. C'est tout?
Qu'est-ce que tu penses de moi?
Que tu es une petite ordure.
Et puis?
Que tu ne cherches à épater les autres que pour t'épater toi-même. Parce que la saloperie, la révolte, c'est encore un remède à l'ennui. Au vide.
Hé, pas con. Et de lui, tu penses quoi?
De lui?
Ben vas-y. Venant de toi, ça peut pas me froisser.
De l'eau chaude, du vent. Ça croit passer sa crise et ça se rangera en épousant une fille bien peignée comme lui. Et pleine de fric.
Cela dit, comme on le pointe aussi, les blousons noirs n'ont évidemment pas une idée plus progressiste des filles, de leur rôle à tenir. Malgré eux, ils appliquent les règles de la société de la fin des années 40, proches finalement de celles qu'entendent appliquer les parents de ces jeunes filles. Dans les milieux dont ils sont issus, les filles sont bien souvent placées très jeunes, à partir de 14 ans, comme apprenties à l'usine, dans des magasins ou des ateliers de couture. De même qu'elles participent au ménage du foyer familial et apprennent à faire la cuisine, à tenir la maison. Chez certaines, la rébellion gronde, mais peu d'entre elles osent franchir le pas en se révoltant et en partant. À l'aube des années 50, leur seul échappatoire, et en est-ce vraiment une, reste le mariage. Voilà donc à quoi ressemblent aussi ces fameuses 30 glorieuses. En mars 1961, c'est notre télévision, la RTB, pas encore F à l'époque, qui s'intéresse aux blousons noirs via une pièce de théâtre.
Si ce thème des blousons noirs est familier au 7e art, il est beaucoup plus rare de le voir traité au théâtre. C'est pourtant ce qui se fait actuellement au théâtre de 4 sous, où se donne « Ils ont joué avec des allumettes » de Marcel Routier. L'auteur étant à Bruxelles, Jacques Danois est allé l'interviewer. Ou l'a trouvé, si ce n'est dans un endroit fréquenté par ses héros.
Marcel Routier, est-ce que c'est véritablement dans un décor comme celui-ci, entre un jukebox, une machine à sous, un bar, que se déroule la vie de la jeunesse actuelle?
Une partie de la jeunesse.
Cette partie, à votre avis, c'est une majorité ou une minorité?
Une minorité, indiscutablement.
Mais c'est malgré tout cette minorité qui est mise en lumière et qui devient à ce moment-là les représentants de commerce de la jeunesse de nos jours.
Représentants de commerce, c'est joli, mais enfin, on peut l'admettre. On peut l'admettre malheureusement. Je crois que c'est surtout ceux qui bougent le plus. Qui bougent le plus parce qu'ils ont besoin de bouger. Ils ont besoin de s'extérioriser. Ils ont besoin de faire quelque chose parce que on ne leur donne peut-être pas d'autres possibilités.
Est-ce que vous pensez que les jeunes pensent à ce qu'ils s'imaginent être leur problème ou bien est-ce qu'ils font semblant?
Dans l'ensemble, je les crois très sincères, mais ils sont également un peu comédiens. Un comédien peut être sincère.
C'est un mal
pas
du
incompatible.
Donc c'est un mal du siècle, cette comédie qu'ils se jouent.
Non, quand on est jeune, on se joue toujours la comédie.
Mais vous ne pensez pas, par exemple, qu'à présent, les jeunes prennent comme grand prophète du mal du siècle ou des choses à voir bien ou mal, un chanteur, par exemple, qui leur donne un peu l'illusion de ce qu'ils pensent, et par contre, n'écoutent pas des gens qui ne chantent pas ce qu'ils ont à dire ou à écrire?
Vous vous exprimez fort bien et vos questions sont très pertinentes, mais je ne crois pas non plus que ce soit très juste.
Pourquoi?
Parce que ce que vous pensez être, si j'ai bien compris votre question, de fausses idoles, c'est pas tout à fait vrai. Il faut, justement, que les jeunes puissent se fixer sur quelque chose. Que ce soit un chanteur, que ce soit un poète, que ce soit un homme politique, ça importe peu.
Dans votre pièce, qui sont les jeunes? D'où viennent-ils et où vont-ils?
Il y a deux sortes de jeunes bien déterminés, ce que l'on pourrait appeler un blouson doré et un blouson noir. Le blouson doré vient d'un milieu extrêmement bourgeois. Et le blouson noir vient d'un milieu arrivé, ce qui a été après la guerre, les BOF.
Est-ce que vous ne croyez pas que le fait, comme vous l'avez fait, d'écrire une pièce où il est question de ces jeunes n'est pas un petit peu les glorifier et en faire des personnages très importants?
Écrire sur quelque chose n'est pas obligatoirement glorifié.
Non, mais enfin, vous les montez en épingle tout de même.
Ils se montent très bien en épingle eux-mêmes, et je trouve beaucoup plus grave de les monter en épingle dans un journal, car un journal du soir ou du matin est quotidiennement mis entre des mains, et cette photo noire et blanche, brutale, avec son odeur d'encre d'imprimerie, voire même de sang, est certainement beaucoup plus préjudiciable qu'une pièce.
Et que pensent les jeunes spectateurs lorsqu'ils viennent voir votre pièce? Ils sont d'accord?
Eh bien, dans l'ensemble, oui. Maintenant, je n'ai pas eu vraiment de contact avec des blousons noirs étant venu voir ma pièce, mais j'ai eu énormément de contact avec des tas de jeunes. Maintenant, nous y méprenons pas. Blouson noir, vous savez, c'est un mot. Ce n'est pas fatalement non plus exactement un uniforme, parce que ceux que vous rencontrez en uniforme ne sont pas peut-être les vrais. Ceux-là sont les comédiens.
Mais est-ce qu'il existe une autre jeunesse, celle dont on ne parle pas?
Bien sûr. C'est même la plus importante.
Et vous ne comptez pas un jour écrire une pièce sur eux?
Ah si, c'est fait.
Vous ne croyez pas que ce serait plus intéressant?
Pas plus intéressant, c'est autre chose. Ils sont tous intéressants.
Parmi les petites révolutions qu'ont apportées les Trente Glorieuses, le bikini, invention due à un ingénieur automobile qui s'était intéressé à la boutique de lingerie de sa mère. Son but, créer le plus petit maillot de bain possible, un maillot qu'il offrira aux objectifs de la presse le 5 juillet 1946 à la piscine Molitor de Paris sur les courbes d'une danseuse nue du Casino de Paris. Et pour cause, les mannequins sollicités avaient refusé d'exposer leur nombril. Quant au slogan « Le bikini, une bombe anatomique », il est inspiré par cet atoll du Pacifique, bikini devenu 4 jours plus tôt le théâtre d'essais nucléaires américain. Cela dit, pas de quoi enthousiasmer les foules avec son nombril dénudé, je le disais, et sa culotte échancrée. Le bikini est jugé provocant, à tel point que l'Italie, l'Espagne et la Belgique en interdisent carrément la vente. En France, il ne sera toléré que sur les plages méditerranéennes pendant un certain temps. Il faudra attendre que Brigitte Bardot en arbore fièrement une version blanche à fleurs devant les photographes du Festival de Cannes en 1953, puis en Vichy Rose dans « Et Dieu créa la femme ». Il faudra encore que Jane Mansfield enchaîne, et puis qu'en 1962, Ursula Andress exhibe, sortant ruisselante de la mer, un deux pièces blanc pour que ce bikini fasse enfin des émules. Si, malgré tout, lors de ces 30 glorieuses, pas si enviables et dont le regret risquerait de nous couper les ailes, il y eut des avancées et quelques révolutions, il en est en tout cas une de libération qui ne s'est pas faite même à la marge durant cette période, c'est celle de l'homosexualité, en tout cas de son acceptation par la société. J'ai évoqué ici il y a quelques semaines l'un des combats de Robert Badinter, ministre de la Justice de François Mitterrand, qui dépénalisa l'homosexualité en France l'été 1982. Et je voulais aussi vous signaler la sortie d'un autre passionnant beau livre titré Radio FG, conçu par Olivier Degors et paru aux éditions de La Table Ronde, un album, si je puis dire, dédié à l'histoire de la radio Fréquence Gay, créée à Paris en 1981 et qui sera relancée en 1990 sous le nom de Radio FG. Un livre gorgé d'entretiens et gratifié d'une mise en page au cordeau, mettant en scène photos et coupures de presse de l'époque. Une radio née, bien sûr, Fréquence Gay, de la libération de la bande FM suite à l'arrivée à l'époque de la gauche au pouvoir, qui entraînera, comme on nous le rappelle, la création de nombreuses stations en majorité associatives dont la dimension créative, musicale, politique, impertinente, voire provocatrice, sans oublier le cruel manque de moyens, tranche avec le ton des médias traditionnels et des radios dites périphériques. Un mouvement auquel Radio Caroline a consacré quelques épisodes il y a quelques saisons. Didier Varro, qui a fait l'essentiel de sa carrière à France Inter, mais qui a commencé sur Fréquence Gay, s'en souvient. Il le raconte dans ce livre parmi d'autres témoignages. Je suis arrivé à Paris fin août 1980. J'avais passé une licence d'histoire à Grenoble et je souhaitais faire ma maîtrise à Paris. J'ai posé ma valise en carton, je n'avais pas d'appartement, mais un ami militant homosexuel m'avait prêté une chambre. Le jour où j'ai débarqué, il n'était pas là, mais il m'avait écrit sur un petit bout de papier une adresse où je devais me rendre, métro Télégraphe. Et je suis arrivé à 22h30 dans une radio qui s'appelle Fréquence Gay. La radio émettait depuis quelques semaines, 24 heures sur 24. Je crois que le studio était installé au 12e étage avec l'émetteur au sommet de cet immeuble un peu élevé qui n'était pas une tour. Juste en face de nous, on avait un autre émetteur qui nous emmerdait et nous brouillait parfois. C'était celui de Énergie. Les deux radios étaient postées à une rue d'écart et chacune a très vite trouvé son public. Énergie sur le segment de la musique et de la jeunesse et Fréquence Gay sur le segment de la communauté homosexuelle avec, dès le mois de septembre, une grille de programmes structurés qui comprenait beaucoup de bénévoles. Parce qu'il y avait de la musique, mais aussi des émissions de cul, des petites annonces, des émissions d'actualité sur le cinéma, le théâtre, l'opéra. Bref, c'était une radio généraliste très joyeuse, très libertaire. Et on va l'entendre, Didier Varro, alors secrétaire général de Fréquence Gay, dans un reportage diffusé le 27 janvier 1983, alors que se pose un problème, celui du partage des fréquences. La bande FM ne pouvant accueillir qu'une quarantaine de radios, sous peine de se brouiller les unes les autres, alors qu'elles sont près de 150 à tenter de s'y faire une place. D'où donc l'idée de partager les fréquences en fonction des horaires, ce qui ne réjouit pas nos amis de Fréquence Gay.
Homosexuel, ce mot correspond encore trop souvent à une gêne, voire à une injure. Derrière lui, des hommes, des femmes revendiquent le droit de vivre autrement. Derrière Fréquence Gay, 120 bénévoles se relaient 24 heures sur 24 pour faire une des meilleures radios libres du pays. La fréquence de 90 MHz a été accordée par les commissions Holo et Galabert. Malgré ce double accord, la haute autorité veut la voir partagée avec une radio anarchiste et une autre écologiste. À Fréquence Gay, on s'étonne de cet amalgame à l'odeur de ghetto.
Il me semble qu'elle est en train d'amalgamer des projets radiophoniques complètement différents. Le projet libertaire, qui est un projet politique et syndical, et Fréquence Gay, qui est une radio d'humeur, d'amour et d'humour, on ne le dira pas assez, qui est là pour défendre le droit et la liberté des homosexuels.
Nous avons la voie du retour à la clandestinité, ça serait tout de même ennuyeux, mais après tout, nous avons comme modèle Mitterrand lui-même, qui a été en procès quand il était avant le 10 mai, quand
il est poste.
C'est ça, et il a, je crois qu'il y a une formule qui peut nous servir de modèle, puisqu'il a dit qu'il y a des cas où il faut savoir aller jusqu'au bout. Ça serait tout de même tout à fait dommage que nous en soyons là, bien sûr.
Et après Didier Varro, cette voix féminine, c'était celle de Geneviève Pastre, présidente de Fréquence Gay. Les choses s'arrangeront provisoirement quelques mois plus tard, Fréquence Gay récupérant la fréquence de Carbone 14, station libertaire et trop débridée aux yeux des autorités, désormais saisie. Ce n'est qu'à l'orée des années 90 qu'une fréquence sera définitivement attribuée à Fréquence Gay, après qu'elle sera relancée par Henri Morel sous le nom de Radio FG, pour devenir, dans les années 90, l'épicentre de la scène électro-française. Morel ne tardant pas à créer la Technoparade en 1998, aux côtés de l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang. Dans ce livre, Radio FG, Jean-Yves Leloup, l'un des animateurs, se rappelle de l'une ou l'autre soirée sur antenne particulièrement agitée. En 1994, Pat Cash, l'un des premiers organisateurs de rêve, débarque en direct totalement camé, accompagné de deux gros bras et d'un DJ. Son but, prendre en otage l'antenne et son animateur, moi, et annoncer la rêve qu'il organise ce week-end-là. Je suis ceinturé, on fait mine de me frapper, un gars dégage un pauvre disque de house sur la platine pour le remplacer par du bon vieux hardcore, les auditeurs trouvent ça à mourir de rire, moi un peu moins. Résultat des courses, pas mal de confusion à l'antenne, pas de bobo, mais l'arrivée d'un quart de flic pour calmer tout ce beau monde. L'année suivante, la brigade des stupéfiants débarque dans nos bureaux, convaincus que la station, premier relais de l'information sur les rêves grâce à son service Minitel, peut être mise en cause dans un trafic d'ecstasy. Une partie de l'équipe passe quelques heures en garde à vue. Cette descente de flics annoncera la fin d'une époque, celle de l'euphorie des premières années rêves, ainsi que le début de la répression étatique contre le phénomène techno, Dixit, donc Jean-Yves Leloup. Pour info, en Belgique, c'est au sein de certaines stations que se glisseront, à l'attention de la communauté gay, des séquences ou émissions sous la bannière Antenne Rose. Sur la bruxelloise Radio Air Libre d'abord, et puis en septembre 1983, au sein de l'émission L'Heure Exquise, que Jean-Louis Bill présente chaque soir sur Radio 21. Eh bien voilà, notre voyage se termine ici. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, à l'étoiler. Belle nuit ou bonne journée. Radio
Découvrez toute l'offre podcast de votre radio préférée sur classique21.be.